France Inter.
Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde. Vous écoutez France Inter, c'est l'heure de faire un peu de tapage. Tapage, nom masculin, bruit excessif, boucan, vacarme. Le tapage, c'est le son qui trouble le voisinage, qui résonne dans la nuit, vous empêche de dormir. C'est le nom de votre rendez-vous musical du samedi soir sur France Inter. Jusqu'à 21h, on fait monter les décibels, on tend l'oreille à la scène française. Et ce soir, le grand retour d'un orfèvre du son, dandy excentrique désormais assagi, un certain Sébastien Tellier. Je m'appelle Camille Diao, bienvenue dans mes oreilles.
Tapage, Camille Diao sur France Inter.
Et si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux en ce moment, vous le savez, la tendance est à l'année 2016. Tout le monde ressort ses photos, ses souvenirs, ses top musicaux de 2016. Mais moi, ce que j'entends en musique depuis quelques mois, c'est autre chose. Plutôt un grand retour des années 80. Ça, c'est l'américaine Doja Cat qui a fait sensation au dernier Video Music Awards. Mais le retour des 80s, je l'entends aussi chez nous, chez Fishback par exemple. Ou dans le grand retour, Dizzeut, façon Janet Jackson. Bon, vous me direz qu'aujourd'hui, le temps s'est tellement accéléré, les cycles, les tendances se succèdent si vite que la semaine prochaine, on sera probablement déjà passé au revival suivant. Sauf que les années 80, bah ça commence à faire un petit bout de temps que ça dure. Ça, c'est Dua Lipa en 2023. Trois ans plus tôt, le Canadien The Weeknd sortait le tube Blinding Lights. Sans oublier le succès de la série Stranger Things qui a relancé la folie Kate Bush. Ça commence à ressembler à une tendance de fond. Alors je me dis, il y a peut-être quelque chose de plus profond qu'un simple effet de cycle. Comme si le son des 80s était redevenu pertinent pour raconter notre époque. Alors d'abord, je dois vous faire une confidence. Moi qui n'ai pas connu les années 80, pendant longtemps, j'avais un peu de mal. Je les trouvais trop kitsch avec ces saxos de films érotiques. Avec ses boîtes à rythme. Ses nappes de synthé, en veux-tu, en voilà. En fait, il y a quelque chose qui me dérangeait dans cette froideur synthétique. Et puis j'ai découvert New Order. Et tout d'un coup, j'ai compris, j'ai vu la lumière. En fait, je pense que ce qui se joue dans le son des années 80, c'est un certain rapport au futur, un mélange de fascination et d'inquiétude. Les 80s, c'est les débuts de la modernité technologique, de l'ultralibéralisme, mais c'est aussi la guerre froide et la peur de l'apocalypse nucléaire. Je pense qu'il y a des parallèles à faire avec notre époque, entre le développement vertigineux de l'intelligence artificielle, le retour de la guerre, la crise climatique, on vit à peu près les mêmes angoisses existentielles. Les synthés froids, les rythmiques mécaniques parlent très bien du monde d'aujourd'hui. Donc dans le retour des années 80, il y a très certainement un peu de nostalgie, mais il y a aussi, et peut-être surtout, la résurgence d'un certain rapport au futur. En tout cas, c'est ma théorie, et je suis curieuse de savoir ce qu'en pense mon invité du soir. Car Sébastien Tellier, lui aussi, revisite, réinterprète le son des années 80, et c'est particulièrement prégnant dans son nouvel album Kiss the Beast sur France Inter.
Peace.
The Beast, c'est le morceau d'ouverture du nouvel album éponyme de Sébastien Tellier. Et comme les choses sont bien faites, hop, le voici qui vient d'apparaître dans ce studio. Bonsoir Sébastien Tellier.
Bonsoir.
Et bienvenue dans ta page.
Merci beaucoup.
Alors, il y a plein de choses dans cet album, mais le son des années 80, c'est vraiment l'une des colonnes vertébrales. Qu'est-ce qui te parle dans ce son-là ?
Le son des années 80, bon, j'adore. Déjà parce que c'est le son qu'avait la radio quand j'étais petit. Hein, je suis né en 75, donc j'étais vraiment la cible totale.
Ouais, donc et c'est puis... entre 5 et 15 ans, quoi, pour toi, les années 80.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc, forcément, c'est un truc qui marque beaucoup. C'est, je sais pas, j'avais lu il y a très longtemps une étude qui montrait que c'était à 13 ans que la musique marquait le plus l'esprit. Donc, bon, voilà, j'étais dedans. Et puis aussi, je pense que les années 80, ce qui est merveilleux, c'est que on arrivait à un stade où, ça y est, pour la composition, on poussait vraiment le curseur à fond. C'est-à-dire, on utilisait vraiment beaucoup d'accords hyper complexes qui venaient du jazz et tout, pour en faire de la petite pop sucrée. Donc ça, déjà, j'aime beaucoup. Et puis aussi, au niveau du matériel, c'était très important, c'est parce que il y avait, c'était le début aussi de ce qu'on appelle les automations, c'est-à-dire la grande table de mixage. On pouvait la programmer et elle bougeait toute seule. Donc on pouvait faire des effets de prod qu'on faisait pas avant, genre un chorus, un effet de chorus qui partirait que sur le refrain, un effet de reverb qui augmente au fur et à mesure de la chanson, des trucs comme ça qu'on pouvait pas faire avant. Donc ça fait un truc, on pouvait vraiment ciseler les effets et la prod. Donc ça, c'est formidable. Et après, on est passé au sampler et tout. Bon, voilà. Mais les années 80, là, c'était vraiment le top pour moi et de la technologie musicale et la compo.
Et d'ailleurs, sur cet album-là, on retrouve quand même l'un des hommes qui a façonné une partie du son des années 80, Nile Rodgers, qui a collaboré avec toi sur l'un des titres. Rien que ça. Assez classe quand même.
J'ai toujours été fan de lui, j'ai toujours trouvé merveilleux. Je trouve que c'est hyper noble en fait ce qu'il propose, c'est une grande science musicale au service de l'amusement, tout simplement. Il a passé sa vie à essayer de faire plaisir aux autres en les faisant danser et tout. Et je trouve ça formidable. Ensuite, c'est vraiment un monsieur extrêmement gentil. Donc c'est top, il est tout humble, il est tout sympa, il pose plein de questions, enfin, il est hyper top. Et je me disais, bah tiens, ça serait vraiment intéressant de l'avoir sur le disque, parce que comme il y a une chanson qui s'appelle Thrill of the Night, et que justement, c'est les plaisirs de la nuit, c'est des filles qui vont en boîte, tout ça, tout ça. Et puis, lui, il a ce son-là, c'est le phare, c'est un phare dans la nuit, le mec.
Ouais, il sait nous faire danser. Alors, il y a le son, et puis aussi l'esthétique, même visuelle, des 80s qu'on retrouve dans tes derniers clips. Il y en a un dans lequel on te voit même jouer du guitar. C'est vraiment cet instrument assez emblématique de la décennie 80, donc qui mélange le synthé et la guitare. On sent qu'il y a même une fascination esthétique au-delà de la musique.
Complètement, j'aimais beaucoup. C'est-à-dire, moi, les années 80 aussi, c'est beaucoup le top 50, donc l'émission où on voyait qui était dans les charts et tout. Et puis... j'adorais ça parce que justement, moi, j'habitais dans une banlieue lointaine où il n'y avait pas beaucoup de gens bien habillés, etc., ni même bien coiffés, je dirais. Et là, je voyais tous ces mecs à la télé, super bien coiffés, avec des fringues de killer. Je me souviens de Slash sur un clip de Guns N' Roses sortant d'une petite chapelle, clope au bec, tout de cuir vêtu. Et superbe. Et tout ça, donc ça, ouais, ça m'a vachement marqué parce que, en fait, à l'époque, tout ça, le top 50 et tous les clips qui allaient avec et tout, c'était ma seule fenêtre sur cette forme-là de culture, quoi.
Et est-ce que j'ai raison quand je dis que les années 80, elles étaient traversées par ce mélange de fascination du futur et d'anxiété par rapport au futur ?
J'imagine qu'il y avait encore dans les années 80, c'est vrai que maintenant, on en retient surtout les trucs colorés, les chorégraphies, les mecs qui jouent du synthé et tout, mais c'est vrai que finalement, le monde à l'époque n'était pas si facile que ça. Déjà, un premier exemple, c'est qu'à l'époque, le dentiste faisait beaucoup plus mal. Par exemple, on n'en était pas encore au stade où le dentiste... Et plein de trucs comme ça. Les trucs faisaient mal, c'était long... on voulait dire un truc à quelqu'un, il fallait envoyer une lettre, enfin, il fallait acheter un timbre. Enfin,
tout ce genre de trucs, quoi. Ça allait moins vite qu'aujourd'hui. Ton album, il est traversé, je trouve, par un certain nombre de sentiments de déjà-vu. C'est cette espèce de sensation de familiarité, comme si on l'avait déjà entendu, mais pas tout à fait. Alors, on entend, par exemple, du Giorgio Moroder, on entend des chœurs à la Ten Sissi, mais plus étonnant, moi, j'ai entendu ça. Ça, c'est ton morceau, le fameux Thrill of the Night.
Ça ressemble vachement.
Alors, qui l'eût cru qu'il y aurait du Jean-Jacques Goldman dans un album de Sébastien Tellier ?
Je suis le premier à étonner. C'est vrai que quand j'ai sorti le morceau, j'ai vu des messages sur Insta qui parlaient de ça. J'étais,
ah, c'est vrai ?
Bon, mais qu'est-ce que... Et oui, oui, ça a été pas mal remarqué. Après, c'est ce qu'on appelle un arpeggio. Donc, c'est un pattern, c'est un motif de notes qui se répète et qui s'adapte en fait aux accords sur lesquels ils sont joués. Et en fait, c'est des trucs qui sont en quelque sorte pré-programmés, ouais, dans les synthés. Donc, je sais pas, j'ai dû taper sur le même programme.
Ça fait aussi partie de notre inconscient collectif, hein, et parfois il y a des choses qui peuvent ressortir sans forcément qu'on le réalise. Ça passe, oui, voilà, c'est le programme, mais c'est aussi une culture partagée. Sébastien, Kiss the Beat, c'était donc ton 8e album. Il est sorti hier, 25 ans après ton disque inaugural, L'Incroyable Vérité, 18 ans après ton passage à l'Eurovision, 12 ans après ton aventure brésilienne, L'Aventura. Personnellement, c'est mon album préféré, je l'ai beaucoup écouté celui-là. Te voici donc de retour avec cet album que tu décris comme moins conceptuel, plus honnête, plus instinctif. On va l'explorer ensemble jusqu'à 21h. Mais d'abord, que dis-tu d'ouvrir par un live au piano, au clavier, tout du moins?
J'en serais ravi.
Eh ben, c'est parti, je te laisse t'installer. C'est Sébastien Tellier, Naïf de cœur, en live dans le studio de France Inter.
Ok.
Vous écoutez Tapage sur France Inter, c'était Sébastien Tellier en live au piano, Naïf de cœur, un titre à retrouver sur son nouvel album Kiss the Beast.
Tapage, Camille Diao sur France Inter.
Merci beaucoup Sébastien pour cette version dépouillée.
Extrêmement dépouillé, un petit piano voix comme ça. J'aime bien faire les versions aussi un peu comme ça parce que ça permet de bien entendre les accords. Et moi, ce que je préfère dans la musique, c'est justement les accords.
Et d'ailleurs, il y a quelques temps, tu avais ressorti un album avec plusieurs de tes morceaux qui étaient rejoués comme ça, tout simplement, au piano.
Oui, complètement. Bah, c'est important parce que c'est vrai, quand on enregistre, on a envie vraiment de s'éclater. Et puis, il y a tellement de matériel dément. C'est vrai que dans un studio d'enregistrement, c'est l'excitation totale. Il y a des trucs partout, on veut tout mettre. Et puis, avec la surexcitation, on met tout. Et puis après, on se dit, ah bah tiens, c'est sympa aussi d'avoir la chanson juste un petit peu plus pure comme ça. C'est un autre angle assez sympa aussi, je trouve.
Alors, c'est une chanson, Naïf de cœur, dans laquelle tu te montres très vulnérable. Tu dis, je suis tendre et rêveur. Tu dis, c'est la tempête et j'ai peur. On est vraiment à milieu de la figure du mâle alpha, viril, dominant. Est-ce que c'est un peu l'album de la déconstruction, pour utiliser un mot à la mode?
Bah, c'est un peu l'album aussi qui est un, concernant ce sujet précis du mâle alpha. C'est que j'ai l'impression que le mâle alpha, outre qu'il posait problème aux femmes et à des gens, enfin, etc., c'est surtout qu'on, moi, je me suis lassé de ce mâle alpha. C'est-à-dire, on l'a vu tellement dans les films, alors, je sais pas, Mission Impossible, Rocky, ou des trucs comme ça, qu'on l'a tellement étudié, on a tellement parlé de lui, on l'a tellement étudié, on l'a tellement vu, on l'a tellement réinventé, blabla, que finalement, il finit par lasser. Donc, cette lassitude fait que il faut bien inventer un autre style de mec, un petit peu, grosso modo, quoi. Et ce mec-là, que j'imagine, moi, l'homme du futur, bah, il est sympa, il est rêveur, il est sensible. C'est pas totalement l'opposé non plus, parce qu'il faut quand même conserver une certaine force et un certain pouvoir de séduction quand même. Mais bon, bah, il est beaucoup moins dominant que l'homme d'avant, quoi, évidemment.
J'ai l'impression que ça passe notamment par ton rapport à ta voix. J'ai l'impression que c'est un album sur lequel tu chantes plus, ou en tout cas tu assumes plus ta voix.
Mais complètement, c'est-à-dire j'ai énormément travaillé ma voix pour cet album, parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'effectivement je n'étais pas juste un compositeur, j'étais aussi un chanteur, et dans l'esprit du public, il y a beaucoup de gens qui me voient comme un chanteur, juste sans se soucier même de est-ce que je compose mes chansons moi-même ou est-ce que je produis un morceau moi-même. Donc je me suis dit, ah là quand même, il faut quand même que je mette les bouchées doux pour quand même essayer d'être à la hauteur à la fois de l'espoir des gens et puis du mien aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai pris un coach américain, Frank, et donc ouais, j'ai beaucoup travaillé avec lui, c'était super, et puis j'ai appris plein de petites techniques et tout ça, mais en fait la plus grosse technique que j'ai pu apprendre, c'est qu'il faut surtout se calmer. C'est-à-dire, moi j'étais très très nerveux avant mes prises de voix et tout ça, je me suis dit, ça va être une catastrophe, je me voyais partir dans le mur tout de suite, et puis finalement déjà en se calmant ça aide déjà beaucoup, et donc de mieux chanter qu'avant, ça m'a permis aussi dans le mix de mettre ma voix plus forte, donc à la fois, et c'est ça que je voulais absolument, c'était à la fois faire des chansons grandioses et intimistes, comme Mouton par exemple, ou Loup, et donc j'ai pu créer ça grâce à ma nouvelle voix, entre guillemets, une instrumentale déchaînée, mais par-dessus une voix très très forte, et j'aurais pas pu le faire si je chantais moins bien.
Et une nouvelle voix, c'est aussi, j'imagine, se reconnecter à quelque chose à l'intérieur de soi, non ? C'est particulier, la voix.
Il y a tout un truc comme ça, c'est vrai que la voix, c'est hyper psychologique, c'est très important. Il faut quand même être assez bien dans ses baskets pour bien chanter, il faut être aussi étrangement dans un certain confort, faut pas qu'il fasse trop froid, ni trop chaud, il y a tout ça. Et c'est vrai que si la voix, c'est tellement particulier justement, qu'il faut quand même s'accepter soi-même. Il faut accepter la voix qu'on a. Donc moi, c'est très bizarre parce que j'ai un physique de bûcheron, mais j'ai une petite voix de brebis. Donc j'ai mis du temps à l'accepter, mais maintenant je vois, ok, j'ai une petite voix un peu comme ça quand je chante, mais finalement, maintenant, ça me va très bien.
Alors, ton écriture dans cet album, elle a quelque chose de très naïf. Il y a une candeur qui est presque enfantine dans les paroles, mais aussi dans certaines mélodies.
Je me réveille seul, c'est ma faute, on a partagé nos rêves et c'est dément. Ah. On a partagé une glace, parfum diamant. Je pensais pas être heureux, mais avec eux c'est bien.
C'est tellement candide et enfantin qu'on se demande presque si c'est du premier degré ou du second degré, Sébastien.
Non, c'est vraiment du premier degré, justement. c'est ça où, c'est avec ça, pour Kiss the Beast, je suis vraiment content de moi sur un truc, enfin sur plein de trucs, mais notamment ça, c'est que j'ai réussi vraiment à killer, à tuer mon snobisme. Donc ça, c'est très important. Et j'ai revu mes plans, c'est-à-dire j'ai essayé toujours d'être sophistiqué, mais je l'ai pas mis dans la même case qu'avant. Je sais pas comment dire. J'ai voulu faire des trucs simples et sophistiqués, mais simples. Pour moi, c'était très important. C'est ça qui fait enfantin. Et aussi, j'avais envie de, parce que finalement, ce titre Kiss the Beast, je suis à la fois le bisou, à la fois la bête. Mais quand je pense à ça, finalement, je pense aussi au fait que je sois presque un enfant dans un corps de bête, en fait. Donc, j'aime bien ce truc-là de, un truc très produit. Mais en fait, c'est comme si j'étais l'enfant qui manipulait cette grande bête un petit peu comme ça. Donc, j'ai voulu que ça reste hyper simple et effectivement, et naïf aussi, tout simplement.
Et un enfant qui a eu 50 ans l'année dernière. Et tu te dis dans plusieurs interviews que ça a créé quelque chose en toi, comme un sentiment d'urgence.
Ah oui, bah oui, parce que finalement, alors quand j'ai eu 50 ans, genre le jour même, c'était génial, j'ai passé une journée géniale, j'ai ouvert le garage, il y avait un quad dedans avec un nœud, enfin c'était top quoi, ma femme avait vraiment tout bien fait, c'était à la maison de campagne, il y avait un jacuzzi dans le salon, il y avait des tables de massage, enfin c'était vraiment fort, c'était formidable. Enfin, le jour même j'étais content, mais c'est avant. C'est vrai que à partir de 44-45, j'ai commencé à faire des petits calculs et je me suis dit, ah, ça arrive quand même bientôt, j'ai pas beaucoup de temps finalement pour continuer, parce que comme je fais des disques assez rarement, tous les 5-6 ans, je dis, admettons, je fais des albums jusqu'à 75 ans, c'était ça mon calcul, bon. Donc il me reste quoi, 5-6 albums, on va dire, si je me dépêche un peu. Et je me dis, oulala, c'est... Alors là, il faut vraiment que je me réveille. Il faut vraiment que je prenne le truc en main et que je pousse tous les trucs au max tout de suite, parce que sinon, je vais pas avoir le temps de le faire.
Parce qu'il y a de l'ambition aussi. tu dis, voilà, j'ai réalisé qu'il me restait pas beaucoup de temps pour atteindre le niveau que je vise, en citant Stevie Wonder et Michael Jackson.
Bon, Stevie et Michael, c'est différent, parce que là, je me contenterais, mais c'est déjà des géants immenses, plus de Paul Naref, Christophe, mes chanteurs français préférés, finalement. Après, être à la hauteur des grandes stars américaines, c'est un autre délire, parce que faut que ça commence très tôt, faut être dans le bain, il faut que déjà, vers 5-6 ans, tu joues du piano comme un killer et tout et tout. Donc ça, bon, de toute façon, déjà, c'était un peu tard. Mais enfin, bon, bref. Mais c'est vrai que c'est très ambitieux, mais en même temps, il faut absolument de l'ambition pour essayer de faire des grands disques, sinon, ça sert pas à grand-chose. Donc moi, j'ai totalement assumé mon ambition et je suis allé vraiment au max de ce que je pouvais proposer.
Et même si tu n'es pas Michael Jackson, tu as déjà marqué, d'une certaine façon, l'histoire de la musique. Et pour la nouvelle génération d'artistes, tu as déjà quelque chose d'assez mythique.
Hello Sébastien Tellier, c'est Camille Yembe. Tu ne me connais sûrement pas, mais moi je te connais depuis un petit temps maintenant. Je t'ai découvert il y a plus ou moins 10 ans avec Larry Tournel. Beaucoup de personnes ont dû te parler de cette chanson, beaucoup de personnes t'en parleront encore. Et voilà, je sais pas ce que t'as mis dans cette chanson, il y a comme de la drogue. Cette batterie magnifique qui a l'air de jamais s'arrêter, de prendre toujours un peu plus de place, de densité, qui a l'air de raconter quelque chose, une histoire à elle toute seule. Et je m'en suis humblement inspirée pour ma dernière chanson qui s'appelle « Je ne l'ai jamais dit à personne ». Donc j'espère que tu m'en voudras pas. J'espère qu'on a su te rendre un bel hommage et honneur. Donc voilà, je voulais juste te dire merci.
Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne.
Camille Yembe, c'était mon invitée dans cette émission Tapage la semaine dernière. Et ce morceau, il s'appelle « Je ne l'ai jamais dit à personne ». On a parlé toutes les deux de Larry Tournel. Ça va, tu lui en veux pas déjà, puisque c'est son inquiétude?
Non, pas du tout. Non, c'est plus, je vois plus comme un hommage. Puis c'est génial de se dire qu'on peut influencer d'autres artistes et tout. Non, c'est super. Pour moi, c'est un honneur d'être un peu repris d'une certaine façon.
Alors, il y a une autre thématique, Sébastien, qui traverse ton album, c'est le règne animal. Et on va en parler juste après ton deuxième live de la soirée. C'est un morceau qui s'appelle justement Mouton. Donc, je t'invite à retourner derrière le clavier, Sébastien Tellier, en live, tout spécialement pour ta page.
Je fais n'importe quoi.
Sébastien Tellier, un mouton dans la tête, c'était du live, une version au piano dans le studio de France Inter, directement dans vos oreilles.
Tapage, Camille Diao sur France Inter.
Je ne sais pas, Sébastien, si tu as entendu ces petits jingles spéciaux qu'on a concoctés en utilisant des petits extraits de tes morceaux.
C'est magnifique.
Merci beaucoup pour cette très belle version de mouton. Alors, on commençait tout à l'heure à parler des animaux, parce que le mouton, c'est pas le seul animal présent dans ce nouvel album.
Retour du règne animal, dans mes pensées tropicales, on rit comme des fous et je perce son cœur. Princesse animale, festin sous mes crocs, je dévore le vrai, le beau. Y a un loup sous ma peau.
Je voulais finir par ce bêlement de mouton.
Ouais, c'est marrant.
Alors, déjà, la question que je me suis posée, c'est est-ce un vrai mouton que tu allais enregistrer toi-même ?
Mais non, c'est bizarre, parce que j'ai entendu à la radio quelqu'un qui disait que c'était un vrai mouton, mais en fait, c'est pas un vrai mouton, c'est un sampleur, c'est sur un sampleur qu'il y avait ce son de mouton, en fait, que j'ai trouvé. Alors, j'ai hésité, parce que, justement, je voulais peut-être mettre un vrai cri de mouton qu'on égorge, mais en fait, à l'oreille, c'est atroce, c'est juste l'enfer sur terre, quoi. Donc, je me suis dit, je vais jouer la carte du petit mouton mignon de dessin animé. Plutôt pas.
Alors, t'es tour à tour dans cet album, loup ou mouton. On l'a entendu dans le premier extrait, ton amoureuse qui est animal. On entend ce bêlement. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter sur le règne animal? On sent que ça te travaille.
Oui, c'est en fait des questions existentielles que je me pose, enfin que je me pose, qui me traversent l'esprit de temps en temps. Et elle me hantait, pour ainsi dire, pendant que j'écrivais les textes. Et je me disais. Est-ce que finalement il y a une vraie différence entre l'homme et l'animal ? Et est-ce que je suis vraiment tout simplement un animal ? Est-ce que aussi la place de l'homme ? Est-ce que justement on est là ? Qu'est-ce qu'on est finalement ? Parce que on remarque malheureusement aussi que les hommes on détruit quand même pas mal, on bétonne à fond, on pollue comme des dingues et tout. Donc finalement pourquoi on est là ? Quelle est notre mission ? Est-ce que on pourrait pas juste se contenter finalement d'être des animaux et de vivre d'amour et d'eau fraîche et avec notre instinct en tête, un instinct qu'on embrasserait comme Kiss the Beast, c'est-à-dire vraiment embrasser la bête, c'est justement embrasser son instinct. Quoi.
Son côté animal. Alors moi, toutes ces questions-là, elles me renvoient aux philosophies de certains peuples autochtones dans différentes régions du monde qui ne tracent pas de distinction aussi claire qu'en Occident entre l'homme et la bête, justement. Je pense par exemple aux aborigènes d'Australie pour qui la terre, les hommes, les animaux sont que des parties d'un même tout. J'ai eu le sentiment que tu t'étais intéressé à ces philosophies-là. Est-ce que je me trompe ?
Alors, j'aime bien tout ça. C'est vrai que j'aime bien ces façons de penser où le tout, c'est-à-dire tout ce qui existe, fait partie d'un même paysage. Ça, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien imaginer que, si tu veux, qu'il y a une forme d'unité, finalement, et que c'est tout ensemble qui crée ce qu'on dit en science, la vérité ultime. C'est-à-dire, apparemment, on sait pas, moi j'ai lu ça dans des articles de science, parce que je suis passionné notamment d'astrophysique, bon, je suis complètement nul, mais ça me passionne.
Oui, et l'univers, ça c'est un mot qui revient beaucoup aussi.
Voilà, énormément.
Et depuis tes premiers morceaux.
En ce moment, il y a un mot très à la mode, enfin pour les scientifiques, c'est ce qu'on appelle la vérité ultime, et j'ai l'impression que si tu veux, cette vérité ultime, alors on ne sait pas du tout ce que c'est ni quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que moi, c'est tout simplement la somme de tout ce qui existe, et nous, l'homme, dans cette somme, on est quelques petits chiffres comme ça, mais on n'est pas si important que ça, enfin, par rapport à un séquoia, je me sens pas plus important qu'un séquoia.
Si je te parlais des aborigènes d'Australie, c'est notamment à cause de ça. Alors là, il y a une espèce de flûte et puis il y a un instrument très inhabituel, qu'on n'entend pas souvent dans la pop occidentale.
Oui, c'est vrai que j'ai mis du didgeridoo. Alors moi, le didgeridoo, c'est marrant parce que, si tu veux, quand j'étais ado, dans la cour du lycée, c'était la honte. Il y avait un truc genre didgeridoo, je sais pas, ça faisait mec qui fait
des bolasses.
Je sais pas quoi, des trucs comme ça. Ouais, il y a un côté mec qui traîne devant la gare ou je sais pas quoi. Et puis après Jamiroquai est arrivé. Jamiroquai, il mettait un petit peu de didgeridoo
ah
déjà.
Ouais, c'est vrai.
Donc ah, il l'a glamourisé le coquin. Moi j'adore Jamiroquai, je suis un immense fan, enfin bon. Et donc voilà, et puis après bon, j'ai complètement oublié le didgeridoo. Et puis pour cette chanson Parfum Diamant, donc la chanson qu'on vient d'écouter un petit peu. Donc voilà, c'est des jeunes amoureux, on va dire, qui s'amusent et puis qui planent en même temps, ils s'allongent dans l'herbe, ils regardent le ciel, et puis tout d'un coup, ils planent vraiment, quoi. Et donc, j'avais envie comme ça de les transposer tout d'un coup. Ils planent si loin qu'ils sont jusque dans le bush australien tout d'un coup. Et il y avait un clip de Michael Jackson il y a très longtemps qui s'appelait Black or White. Et ça changeait toujours de décor comme ça. Et ce que j'adorais chez Jackson, c'est qu'il adorait tout ce qui était un peu fake. Et là, c'était des décors bien fake, comme ça, où tu sens vraiment le trucage. Et en fait, c'est ce clip-là de Michael Jackson qui m'a inspiré ce petit passage australien.
En fait, j'ai le sentiment, en t'écoutant et en écoutant cet album, tu vois, tu parlais de vérité ultime, comme la somme de tout ce qui existe. J'ai l'impression que cet album-là, c'est aussi une espèce d'aboutissement et comme la somme de tout ce que t'as fait précédemment. On parlait des animaux. En écoutant l'album, voilà, j'ai repensé à des morceaux sur ton tout premier disque. Il y a L'enfance d'un chien et Fin de chien. Récemment, t'as fait la BO d'un film qui s'appelle Animal Totem. Je repensais à une vieille chanson qui s'appelle Universe. Et en fait, c'est un peu comme si t'avais pris tout ça, t'avais mis ça dans un shaker et paf, ça donne Kiss the Beast.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. J'ai mis Kiss the Beast, à la fois c'est le premier épisode de la saison 2 et à la fois le dernier épisode de la saison 1. Parce que j'ai mis tout ce que j'aimais. Mes accords préférés, donc souvent des mineurs 9e, mes synthés préférés, le Yamaha CP80, le Yamaha CS80, mes guitares préférées, Gibson Les Paul, de la Strat. J'ai utilisé tous mes effets préférés, la reverb à bloc, évidemment, le chorus. Donc effectivement, au-delà de ces trucs-là qui sont plus des trucs de l'ordre de la pensée, même au niveau du matériel, au niveau du concret, du faisage d'un album, c'est ça, j'ai la totalité finalement de tout ce que j'ai pu aimer au cours de ma carrière en fait.
Alors c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il reste à faire?
Il y a cet album que j'ai en tête qui s'appelle Le Rat Nu. Et où là, je reviendrai sans barbe et sans cheveux.
Oh, waouh.
Ouais, mais j'attends d'être plus vieux parce que je voudrais vraiment être répugnant. Enfin, je dis pas que les vieux sont répugnants, mais je voudrais, moi, être répugnant pour le faire. Parce que, tel que je le vois, je voudrais faire... En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on fait de la musique, on recherche la beauté ou une espèce de belle luminosité, un truc comme ça. Et j'aimerais bien faire un album qui soit totalement l'inverse. L'album du tréfonds, quoi. Mais ça, j'attends de le faire parce que je pense qu'il n'aura aucun succès commercial. Donc, je prends un peu.
T'as encore quelques années devant toi, en tout cas. Sébastien, tu restes encore un tout petit peu avec moi. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute ensemble le morceau de clôture de ton album. C'est justement un morceau qui est très lumineux. Un morceau qui tend vers la beauté. C'est Un dimanche en famille sur France Inter.
C'est un dimanche en famille. On s'allonge et on sourit, on part loin. C'est un week-end tout tranquille. On joue à cochon qui rit. Et dans les yeux d'Amandine, on va loin. Thank you.
ça j'aime bien. Dans le jeu des sept familles, je demande le père fragile. Alors je joue l'imbécile, c'est sans fin.
Dimanche, en famille, extrait du nouvel album de Sébastien Tellier, qui est l'invité de Tapage jusqu'à 21h. Donc c'est ça, maintenant, la vie de Sébastien Tellier aujourd'hui, les dimanches en famille et les petits plaisirs simples de la vie.
Mais oui, mais complètement, Serge, j'ai eu du mal à le comprendre, mais finalement, j'ai longtemps vécu dans un truc où j'avais l'impression que pour être heureux, il fallait avoir une vie extraordinaire et tout. Alors, moi, j'ai vécu plein de trucs extraordinaires et tout. Mais n'empêche que là où je suis le mieux, c'est le week-end dans ma maison de campagne avec ma femme, Amandine, et les enfants. On fait des jeux de société, on se roule sur la moquette, je prépare des faritas. Et pour moi, c'est le climax de ma life, c'est ça que je préfère. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. En fait, c'est très étrange parce que je me suis toujours vu comme un renégat ou limite un loup solitaire. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, ce que j'aimais vraiment, c'était la vie de famille, quoi. C'est là où je me sens apaisé et heureux.
C'est pas simple de faire des chansons sur des moments aussi simples que ceux-là. Il y a peu de chansons, finalement, sur le fait d'être apaisé et heureux.
Mais enfin, c'est pour ça, moi j'aime bien faire des chansons qui parlent de quelque chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chansons, mais tant mieux, et moi-même j'en fais aussi, hein. Des chansons, il y a Dance, 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 Come On, voilà, tu vois.
Thrill of the Night.
Ouais. Voilà, pourquoi pas, c'est cool et tout. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de la même chose, notamment par exemple dans le rap, où ça a beaucoup parlé de drogue, ou d'escalier, ou de vol de scooter, et, ou de vengeance. Mais c'est toujours la même tête. Alors moi j'avais envie de parler de trucs où justement qui sont hyper touchy, qui sont difficiles. Parce que j'aime bien, par exemple, la famille, justement, dimanche famille, c'est très casse-gueule comme truc. Ça peut vite faire un peu foireux à la française, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas que la musique française soit foireuse, mais il y a une partie de la musique française qui est foireuse. C'est vraiment sur le fil, quoi. On peut vite tomber. Donc là, c'est un défi qui me plaisait bien aussi, d'essayer de faire un truc tout simple, tout nature, genre yaourt nature, et pourtant, ça soit émouvant, quoi.
Alors, si je te pose la question, c'est aussi parce que le dernier quart d'heure de cette émission, il est habituellement consacré à la fête. Donc, est-ce que malgré ces dimanches en famille, tu continues quand même à avoir un cœur de fêtard ou est-ce que c'est fini tout ça, c'est derrière toi ?
Si, quand même. C'est avant-hier, j'ai passé la soirée avec Kid Cudi, j'ai fait la fête. Ça, c'est sûr.
C'était vraiment dit, très sympa. Rappeur américain qui est invité sur ton album.
Voilà, complètement. Et là, il faisait son expo à Paris, donc on a été fêter ça. Enfin, c'était assez formidable. Et puis, donc voilà, mais ce qu'il y a, c'est le problème... Enfin, alors, oui, j'aime la fête, mais c'est plus comme avant. Il y a longtemps, il y avait une boîte formidable avant qui s'appelait Le Baron. C'était Lionel et André qui avaient cette boîte de nuit et j'y allais vraiment tous les soirs. Mais tous les soirs. D'ailleurs, au tout début, c'est moi, j'accueillais les gens, en fait, les invités arrivaient, enfin les clients, et je jouais du piano pendant leur arrivée. Mais je parle de ça il y a hyper longtemps, c'était même avant la ritournelle, je pense. Donc là, je sortais vraiment tous les soirs, j'ai adoré ça. Et puis à un moment, j'ai ça... En fait, mais pourquoi je sortais ? C'est parce que je cherchais l'amour, tout simplement. Parce qu'on imagine toujours que la fête et tout, c'est un truc super dark avec des mecs malsains qui te refilent des cachetons, je sais pas quoi. Alors que moi, je sortais pour trouver l'amour, pour avoir avoir une petite amie, quoi. C'est tout. Je cherchais une petite amie, quoi.
Alors, à quoi elle ressemble, la fête, maintenant que tu as trouvé l'amour, que tu as une famille et que tu t'es assagi?
Alors, l'autre jour, j'étais en boîte, il n'y a pas très longtemps, donc comme quoi je sors quand même un peu. Et j'aime bien, parce que maintenant que je suis un peu connu, bon, ils m'ont fait un petit espace où il n'y avait que dans mon petit carré où j'avais le droit de fumer. Tout ça, j'étais privilégié. Ça, j'étais content, j'étais là, ouais. Par contre, je voyais autour de moi, c'était que des gens beaucoup plus jeunes que moi. J'étais là, ah, je suis peut-être pas vraiment à ma place, en fait.
Donc la fête, c'est à la fois faire l'expérience de ses privilèges et de son âge, si je résume.
Ouais, non, mais c'est important de faire la fête. Non, ce qui est surtout important, je dirais, bon, la fête, formidable, mais c'est de célébrer. C'est-à-dire, il y a plein de trucs à célébrer. Par exemple, un bon bulletin des enfants, champagne. Je sais pas, ils ont bien repeint l'immeuble, champagne. Il faut célébrer les trucs. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et je trouve qu'en France, bon, il y a les grandes fêtes qu'on connaît tous, voilà, machin, mais il y a plein d'autres occasions à célébrer, donc moi, dès qu'il y a une toute petite occasion à célébrer, je la célèbre.
Alors, je t'ai demandé de venir avec un morceau pour nous faire danser en ce samedi soir, pour célébrer ta venue dans ta page, et tu as choisi ça. Comme par hasard, on est en plein dans les années 80, 1983, c'est Break Machine, Street Dance sur France Inter. On est en 1983, Break Machine, Street Dance, c'était le choix de Sébastien Tellier pour votre samedi soir. Alors à quel souvenir ça te ramène ?
Je me souviens, donc j'avais le 45 tours dans ma chambre avec mon petit ma petite platine vinyle, enfin on appelait ça manche disque je crois, à l'époque,
ouais.
Et j'adorais écouter ce truc, et c'était aussi plus ou moins la musique, alors je sais plus si c'était le générique ou si c'était dans l'émission, d'un morceau je crois qui s'appelle... d'une émission qui s'appelait Hip Hop, je crois. Et le mec, le présentateur, devait s'appeler Sidney.
Ah oui, avec Sidney, HIP, HOP. Alors j'étais pas née, mais j'en ai vu des archives. Ah, première émission où on a entendu du rap, en fait, en France.
Voilà.
C'était sur TF1, me semble.
Et ça, ouais, là, c'est ça. Et moi, ça me fascinait, les trucs. Et donc, il y avait un peu, à l'époque, on était très admiratifs de New York, quoi. C'était vraiment la ville qui faisait rêver, quoi. Brooklyn, le Bronx et tout. Et pour moi, cette chanson-là, ça représente tout ça. Et après, en fait, j'ai découvert qu'en fait, pas du tout. En fait, derrière, c'est des Français. C'est deux mecs du Sentier qui ont fait le morceau. C'est complètement... J'étais, ah bon ? Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement génial, le showbiz. Parce que tu peux faire croire n'importe quoi. En fait, c'est vraiment juste... C'est un spectacle, quoi. Alors que pour moi, c'était genre l'âme new-yorkaise, ce morceau. Quoi.
Break Machine, Street Dance. Merci beaucoup, Sébastien Tellier, pour ce debunk, j'ai envie de dire, de ce morceau. Et pour cet instant nostalgie. Et merci d'être venu nous présenter ton nouvel album dans ta page. Il s'appelle Kiss the Beast, Embrasser la Bête. Il est sorti hier. Il est dispo partout. La tournée commence en février. On pourra te voir sur scène un peu partout en France. Mais je signale les deux Olympias à Paris les 16 et 17 mars prochains. Merci encore Sébastien.
Merci beaucoup et au revoir.
Et bonne route à toi. On se quitte sur un dernier morceau. Et c'est un peu le Sébastien Tellier italien d'ailleurs, je trouve. Andrea Laszlo Simone sur France Inter.
È colpa del respiro fragile come me. Se soffro tanto ma son vivo. È colpa della bocca stupida come me e del tuo corpo che la tocca. Dell'istinto agile come me che corre sempre dritto al punto. È colpa dell'amore ruvido come me.
Laszlo de Simone pour conclure cette heure de tapage en compagnie de Sébastien Tellier. Un grand merci à toute l'équipe, Alexis Goyer à la préparation, François Audouin à la réalisation, Juliette L'Orphelin à la programmation musicale, Mathias Alléon et Clément Berman à la prise de son et au mixage. Juste après le journal, la soirée continue en musique sur les ondes de France Inter et en live avec le concert de Karen Anne enregistré le week-end dernier à l'Hyper Weekend Festival. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, pour encore plus de tapage.